Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette pour vous accompagner à travers cette dernière de C'est bon pour la santé sur Canal M. On estime qu'environ 10 à 15 % de la population qui vivent avec des acouphènes. Bon, vous savez, les acouphènes, ce sont ces petits bourdonnements qu'on entend dans les oreilles et qui, semble-t-il, sont très difficiles à décrire parce que ressentis de façon bien différente chez chaque personne. Comment en savoir plus? Comment mieux comprendre les acouphènes? J'en parle en deuxième partie d'émission avec Ronald Choquette, professeur et responsable de l'enseignement sur les acouphènes au programme d'audiologie de l'Université de Montréal. Mais d'abord, janvier est le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer, une maladie qui touche 125 000 Québécois. C'est un chiffre qui devrait dans 20 ans doubler pour atteindre 260 000 personnes, 260 000 Québécois. Un constat inquiétant, une maladie qui semble effrayante. Toutefois, les dernières découvertes du docteur Jude Poirier, lui directeur adjoint au Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer de l'Institut Douglas, apportent de nouvelles pistes de recherche, notamment en ce qui est en lien avec la prévention et surtout génèrent de l'espoir. Je lui parle dans quelques instants. Bonjour, docteur Poirier.
Bonjour.
D'entrée de jeu, j'ai envie de vous citer. Vous dites, docteur Poirier, que la solution, c'est sans aucun doute lié à la prévention, parce que quand un patient reçoit un diagnostic d'Alzheimer, c'est déjà 65 à 75 % de ses neurones qui sont morts. Donc, pour prévenir, à mon sens, il faut connaître les ressorts d'une maladie. On sait notamment sur l'Alzheimer que c'est beaucoup le vieillissement qui est un facteur de risque important, mais il y a d'autres facteurs de risque.
Oui, tout à fait. En fait, on sait maintenant aujourd'hui, en 2015, qu'il existe un sous-groupe de sujets souffrant d'une maladie d'Alzheimer qui est dite de forme pure familiale. Et pour ce sous-groupe, qui représente environ 5 % de tous les cas d'Alzheimer, on a même identifié 3 gènes qui sont causatifs. Là, j'utilise bien le mot, là, des gènes causatifs, donc pour lesquels on a trouvé des anomalies, des modifications génétiques qu'on hérite de nos parents et qui vont provoquer une maladie, et c'est sûr à 100 %. Mais ça, c'est pour le petit groupe de forme familiale. Le reste, disons la forme commune, celle que peut-être que vous et moi nous côtoyons là, régulièrement, celle-là est un petit peu plus compliquée. Mm-hmm. Il y a une portion génétique, encore une fois, mais ce ne sont plus des gènes dits causatifs, mais ce qu'on appelle des facteurs de risque. Donc, nos parents ne nous donnent pas une cause de maladie sous forme de gène, mais nous donne un risque. Et selon les styles de vie qu'on adopte tout au long de notre vie, on peut ou augmenter ou réduire le risque d'avoir la maladie un jour si on est porteur de ces fameux facteurs de risque génétique.
Et ces facteurs de risque génétique-là sont associés à différentes maladies qui peuvent, en quelque sorte, avoir un impact là, sur le développement de la maladie d'Alzheimer.
Oui, effectivement. En fait, ces fameux risques, dans le fond, on les hérite, et comme je disais tout à l'heure, selon nos styles de vie, et là, c'est dans le sens le plus large du terme, je dirais l'environnement, on peut soit augmenter ou diminuer un peu à l'image du volume d'une radio, notre niveau de risque. Je vous donne deux exemples concrets. On sait que les gens qui, dans la quarantaine et la cinquantaine, ont des taux de cholestérol élevés, trop élevés, mais ne font rien pour corriger la situation, bien, ces gens-là voient leur risque d'avoir la maladie d'Alzheimer un jour doublé, presque triplé.
Oui.
Même chose avec les gens qui souffrent d'hypertension, qui, comme le cholestérol, n'a absolument aucun symptôme. Et souvent, les gens disent « Ah, lui, il doit avoir de l'hypertension, il devient rouge. » C'est absolument pas vrai. L'hypertension, c'est une maladie silencieuse, donc la pression sanguine augmente beaucoup trop et ça endommage les vaisseaux de notre cerveau. Et ça aussi, si malheureusement on a une hypertension non contrôlée dans la cinquantaine, la soixantaine, 70 ans, bien notre risque d'Alzheimer, encore une fois, il est doublé, presque triplé.
Oui, même chose pour l'obésité.
Exactement, même chose pour l'obésité. Et de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que si on fait, avec notre style de vie, des changements importants, et là, les gens vont me détester, le fameux exercice qu'on dit, qu'on mentionne si souvent, soit dans les maladies cardiaques ou au niveau du cancer, mais aussi l'alimentation, particulièrement l'alimentation qui s'apparente à ce qu'on fait autour de la Méditerranée, donc le style méditerranéen, qui est riche en viande blanche, mais pas de viande rouge, beaucoup, beaucoup de légumes. Quand on utilise des corps gras, c'est uniquement de l'huile d'olive. Bref, exercice avec ou sans diète de type méditerranéenne, ça a été maintenant prouvé à 3 reprises, va réduire votre risque d'avoir l'Alzheimer un jour.
Dans les gènes causatifs dont on parlait tout à l'heure, est-ce que celui que vous avez découvert en 93, l'APO4, en est un?
C'est un des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, même s'ils sont porteurs du gène de risque, échappent à la maladie.
Okay.
Je vous donne des exemples concrets juste pour que ce soit clair. Si vos deux parents vous ont donné chacun une copie du mauvais gène ou du risque, mais malheureusement, votre risque d'Alzheimer est de l'ordre de 93%. Vous allez me dire, mon doux, 9 chances sur 10, c'est assez élevé. Mais parce que ce n'est pas 100%, je ne peux pas vous dire que c'est une cause. Mais à 93%, vous conviendrez avec moi que c'est un facteur de risque très, très, très important.
Mm-hmm. Et parce que ce n'est pas certain à 100%, c'est pour ça que vous ne conseillez pas le fameux test génétique là, qui pourrait maintenant démontrer si on est porteur du gène, donc à risque de développer la maladie.
Effectivement, c'est une des raisons. Je voudrais probablement la seconde évidente, même si ce n'est pas la plus importante, c'est qu'au Canada, on n'a pas un encadrement législatif qui va protéger les gens contre une utilisation abusive de l'information génétique.
Mm-hmm.
Aux États-Unis, en Europe, on a mis en place des lois excessivement sévères contre la mauvaise utilisation, que ce soit pour des fins discriminatoires, pour vous, essentiellement, vous mettre à la porte, sachant que vous allez coûter cher à partir de 50 ans, ou pire, vous nier une assurance ou un encadrement d'assurance sous prétexte que vous allez être coûteux un jour. Au Canada, malheureusement, il y a eu des cas qui sont allés en cours et avec des pénalités ridicules d'entreprises qui ont utilisé l'information génétique pour faire de la discrimination contre certains de leurs employés. Et comme on est mal équipé, je dirais, moi, c'est peut-être mon inquiétude peut-être encore plus importante que le fait que les facteurs de risque génétique ne sont pas fiables à 100%, c'est que si quelqu'un met la patte sur l'information génétique, ça pourrait être terrible.
Oui.
Et rappelez-vous que si je teste des parents, ces parents-là ont donné leur gène automatiquement à leurs enfants. Donc, en testant les parents, je connais l'information des gènes de leurs enfants sans même effectuer un test.
Et ça peut créer une vague de panique, là, parce que si l'on fait ce genre de test-là à 40 ans, qu'on voit qu'on a un risque, là, ça peut amputer nos autres années de vie. Là.
Tout à fait, tout à fait. Et comme je vous disais, la différence, c'est avoir et pas un traitement. J'utilise souvent l'exemple d'Angelina Jolie, l'actrice, qui a pris une décision terrible. Elle a choisi d'avoir une ablation des seins, sachant qu'elle avait 2 combinaisons génétiques qui la mettaient à extrêmement haut risque de cancer du sein. Elle avait le choix soit d'attendre et voir si la maladie allait sortir, soit d'attendre et si la maladie sortait d'utiliser des médicaments qui sont quand même relativement bons, mais ne garantissent pas une guérison à 100%. Et elle a fait la prévention totale. Elle a tout simplement fait enlever ses seins, remplacés par des prothèses, qui sont 3 solutions, dans le fond.
Oui.
Mais pour l'Alzheimer, je ne peux rien vous offrir. Mmh. On n'a rien pour stopper l'Alzheimer. On n'a rien pour la prévenir, en tout cas pas encore. Donc, de faire un test génétique sans offrir une solution, c'est assez cruel.
Donc, pas tout à fait de solution concrète encore, Dr Poirier, mais en même temps, récemment, votre équipe et vous avez découvert un gène protecteur.
Oui, oui.
Qui pourrait donner beaucoup d'espoir en ce qui a lien, du moins, à la prévention.
Oui. En fait, ça a été une belle surprise et puis finalement, la continuation de travail, le travail qu'on avait commencé il y a 20 ans quand on a découvert le premier facteur de risque génétique. En fait, la première fois où j'ai présenté les données d'un fameux gène de risque, il y a à peu près une vingtaine d'années, beaucoup de gens m'avaient regardé dans la salle, les experts internationaux, avec un gros sourire, parce que je leur disais que le gène qu'on avait tout découvert, le facteur de risque génétique principal d'Alzheimer, bien, il sert à transporter le cholestérol d'une cellule à une autre, d'une région du cerveau à une autre région du cerveau, dans différents organes. Or, quand on pense Alzheimer, on ne pense pas nécessairement cholestérol. Mm-hmm. Mais ça ne nous a pas découragés. On a quand même continué à travailler là-dessus. Et depuis 5 ans, on a identifié maintenant une douzaine de ces facteurs de risque génétique pour la forme commune de la maladie d'Alzheimer. Et surprenamment, il y a presque 6 des 10 principaux facteurs de risque génétique qui se sont ajoutés aux gènes qu'on a découverts il y a 10 ans, qui eux aussi jouent un rôle ou un autre dans le métabolisme du cholestérol. Dans ce contexte-là, on s'est dit, et si dans la population québécoise et canadienne, il n'y aurait pas des chanceux qui auraient hérité de leurs parents, non pas des facteurs de risque, mm-hmm. mais un facteur de protection qui les protège naturellement contre la maladie d'Alzheimer. Et là, on a utilisé des techniques très sophistiquées de génétique là, qui datent d'il y a à peine 5 ans pour finalement trouver un de ces gènes avec une variante qui, à la naissance, vous protège presque complètement contre une maladie d'Alzheimer. Et si même vous avez à avoir la maladie d'Alzheimer, bien, elle va commencer presque 5 ans plus tard, donc beaucoup plus tard que la moyenne des gens. Or, ce fameux gène et cette variante-là, bien, c'est dans le gène qui contrôle la production du cholestérol. Donc, on revient à notre histoire d'il y a 20 ans, mais par la porte en arrière.
Oui. Et est-ce qu'il y aurait moyen de développer ce gène-là de façon, peut-être je m'exprime mal, mais de façon synthétique, en fait, de créer un médicament pour le créer?
C'est-à-dire utiliser le gène parce qu'il est dans le cerveau, c'est compliqué chez l'humain parce que il y a comme toutes sortes de systèmes de protection qui nous compliquent la vie. Par contre, puis vous en avez un petit peu laissé sous-entendre la portée, on peut mettre au point un médicament qui va ni plus ni moins que mimer la fonction de ce gène protecteur. Et même, je vous dirais, on n'a pas eu à creuser beaucoup parce que dans les années 80, il y a des compagnies pharmaceutiques qui ont mis au point des agents réducteurs de cholestérol qui avaient plusieurs fonctions au niveau du sang et du cerveau. Et parmi ces vieilles molécules-là, on en a trouvé une qui, justement, arrive à faire relativement bien la même chose que mon fameux gène de protection. Et cette molécule-là qu'on va faire venir de l'Asie, en fait de la Chine, on va commencer à l'utiliser ce printemps dans la première étude de prévention au monde avec une approche là, qui est articulée autour du cholestérol.
C'est formidable, ça!
C'est très excitant.
Oui. Je vous entendais en entrevue, Dr Poirier, et autre chose que je trouvais assez fascinant, c'est par rapport à l'utilisation des anti-inflammatoires. Vous aviez découvert que les gens qui souffrent d'arthrite et qui prennent beaucoup d'anti-inflammatoires seraient plus protégés envers la maladie?
Ça ressemble un petit peu à ça, mais en fait, c'est encore plus amusant. Le directeur du centre de prévention ici s'est attardé depuis une vingtaine d'années à regarder des jumeaux. Donc, vous savez, quand on fait, nous, des études à de grande haleine sur de longues années, si on veut que la génétique ait peu ou pas d'influence dans nos études, bien, on regarde des jumeaux, sachant qu'ils ont exactement les mêmes gènes, si un des deux développe une maladie et l'autre pas, on peut se dire, bien, leurs gènes sont identiques, donc il y a quelque chose dans leur vie tous les jours que l'un fait ou que l'autre ne fait pas. Et il avait découvert, en faisant l'inventaire des habitudes de vie d'un grand nombre de paires de jumeaux, qu'il y avait toujours un jumeau qui semblait plus protégé contre la maladie d'Alzheimer que l'autre, et c'était souvent celui qui avait des problèmes d'arthrite. Ayant un peu d'imagination, nous, les chercheurs, on a dit, l'arthrite est protecteur. Mais évidemment, il n'a pas fallu creuser tellement longtemps pour réaliser, tous les gens qui ont de l'arthrite, ils n'aiment pas ça, puis ils prennent des médicaments pour atténuer la douleur, qu'on appelle les anti-inflammatoires. Et c'est comme ça qu'on a découvert, finalement, que ce qui protégeait ou semblait protéger le jumeau, c'était les anti-inflammatoires mm-hmm. qu'il prenait pour atténuer sa douleur, mais qui indirectement chamboulaient la biologie de l'Alzheimer et faisaient soit qu'elle arrivait plus tard ou littéralement la maladie n'arrive pas chez le deuxième jumeau.
Wow! Donc, il y a un lien entre inflammation et développement de la maladie.
Tout à fait, mm-hmm. tout à fait. Et ça, c'est la première étude qui est maintenant à mi-parcours, qu'on a commencé il y a maintenant 2 ans. Étude de prévention avec un anti-inflammatoire léger, parce que dans un contexte de prévention, on essaie toujours de penser à des médicaments qui ont peu ou pas d'effets secondaires, parce qu'on pense les utiliser peut-être pendant des années. Et on est à mi-chemin de cette belle étude où on teste littéralement la question, est-ce que prendre des anti-inflammatoires légers chez des gens qui ont un risque accru de maladie d'Alzheimer, est-ce que ça va reporter ou même annuler l'apparition de la maladie dans les années à venir?
Et on revient bien sûr à l'impact d'une saine alimentation dans la prévention de la maladie.
Tout à fait. Oui. En tout, on fait le tour. Donc, alimentation, exercice. Et ce qu'on essaie de faire ici au centre de recherche, pour ceux qui ont peut-être moins le courage ou moins l'envie de changer leur style de vie, bien, trouver une pilule qui, on le souhaite, va peut-être pouvoir faire la même chose dans un avenir approché.
Mm-hmm. Docteur Poirier, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, janvier, et comme campagne de sensibilisation, en fait, on a mis de l'avant cette campagne qui se nomme « Les 72 %» parce que l'on dit que les femmes sont plus touchées. Les 72 %, en fait, ce sont les femmes qu'on vise et c'est à elles qu'on a envie de s'adresser. Est-ce que l'on sait pourquoi les femmes sont plus touchées par la maladie d'Alzheimer?
Oui, on en a une bonne idée. En fait, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est deux choses distinctes. Un, on sait que les femmes, par les choix qu'elles font, généralement, on parle d'habitudes de vie, prendre peut-être un petit peu plus soin de leur corps que les hommes ne le font, ont une espérance de vie qui est supérieure à l'homme dans à peu près toutes les sociétés occidentales et même orientales à travers le monde. Mm-hmm. Donc, cette différence d'espérance de vie fait qu'en vivant plus longtemps, elles ont plus de chances d'avoir une maladie qui est forcément liée au vieillissement. Mais l'angle qu'on maintenant on favorise de plus en plus, ou l'explication, c'est que, rappelez-vous, tous les facteurs de risque que je vous ai expliqués tout à l'heure, le taux de cholestérol élevé, l'hypertension dans la quarantaine, la cinquantaine, l'obésité, le diabète, ce sont tous des facteurs de risque Alzheimer. Mais avant d'être des facteurs de risque Alzheimer, c'était des facteurs extrêmement bien établis de maladies cardiaques.
Mm-hmm.
Or, vous, les femmes, vous êtes nées avec, ou plutôt, je voudrais dire, à l'adolescence, vous allez acquérir une hormone qui s'appelle l'estrogène et qui a cette particularité de tenir en échec les maladies cardiaques.
Mm-hmm.
Donc, une femme qui voit ces facteurs de risque-là et ne s'en occupe pas à toute fin de pratique, ben, une espèce de protecteur naturel contre ces facteurs de risque de maladies cardiaques. Malheureusement, après la ménopause, l'estrogène n'est plus là chez la femme pour la protéger et les mêmes facteurs de risque qui étaient plutôt cardiaques, ben, sont des facteurs de risque associés à une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer.
Mmh.
Dans le cas des hommes, ben, je pense que vous devinez ma réponse, ben, nos gars qui n'ont pas d'estrogène, qui subissent ces facteurs de risque et ne s'en occupent pas, ben, c'est une belle grosse crise cardiaque qui les attend et ils ne sont plus tout simplement vivants pour avoir la deuxième maladie qui dépend des mêmes facteurs de risque, qui est la maladie d'Alzheimer.
Mmh.
Donc, c'est un peu l'effet du sort combiné des facteurs de risque et de la longévité chez la femme.
Donc, il est bien de centrer cette campagne de sensibilisation-là sur cet aspect.
Tout à fait.
D'autant plus. En terminant, Dr Poirier, je vous écoute et c'était bien sûr cette discussion-là que j'avais envie d'avoir avec vous sur, bien sûr, l'espoir qui est amené par toute cette ces nouvelles découvertes-là liées à la prévention de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que je sens un certain positivisme de votre part? Est-ce que vous avez tout de même l'impression que ça pourrait aller plus vite, que les recherches sont parfois un petit peu freinées en lien avec l'Alzheimer au Canada?
Oui, je vous dirais que pendant trop longtemps, on a pensé que la maladie d'Alzheimer, ou disons-le tout simplement, les problèmes sérieux de mémoire liés au vieillissement, c'était simplement du vieillissement. Or, il n'y a rien de plus faux que ça. La maladie d'Alzheimer est une maladie. C'est une maladie qui frappe énormément de gens. Mm-hmm. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure. C'est effarant. Pour le Québec, ça nous coûte collectivement environ 3 à 4 milliards de dollars par année. Ici, d'un point de vue planétaire, on faisait un graphique, on parle de 600 milliards de dollars par année. Donc, c'est à peu près l'équivalent du produit national brut de la Turquie. L'Alzheimer est un pays. Donc, ça vous illustre bien ce que c'est. On a, comme je vous disais, changé cette attitude-là. Ce n'est plus une maladie normale ou ce n'est plus un processus normal du vieillissement. On l'identifie. Nos médecins sont bien formés maintenant pour la reconnaître. Ce qu'on a pris un peu de temps à comprendre, c'est qu'une fois que le diagnostic est fait, beaucoup, beaucoup des cellules sont mortes et on peut difficilement les ressusciter. Et ça, on va avoir un impact énorme, très important. Il va falloir qu'on travaille en amont de l'arrivée de la maladie, donc dans les décennies qui précèdent l'arrivée prévue de la maladie, donc qu'on s'attaque à la prévention. Et ça, ça a été un énorme changement d'attitude, mais ça prenait aussi, pour être franc avec vous, de la technologie, de la très haute technologie. L'imagerie cérébrale à très, très haute résolution. Anciennement, je faisais 10-12 tests génétiques chez un patient. Maintenant, dans chacun de mes patients, j'en fais 550 000 par sujet.
Wow.
Donc, vous voyez que la technologie nous a permis de faire des bons fantastiques de l'avant, mais on n'avait jamais jusqu'à maintenant combiné cette imagerie à haute résolution, les nouveaux tests de mémoire ultra sophistiqués, la génétique de haut de gamme. Et ça, on le fait, en tout cas, on le fait ici au centre de recherche à l'Institut Douglas. Et ça va essentiellement changer toute la donne au niveau de ces approches de prévention.
Eh bien, c'est fascinant de vous parler, Dr. Jude Poirier. Je rappelle, vous êtes directeur adjoint au Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635. Et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Ronald Choquette.
Bonjour, ça va bien?
Oui, vous aussi?
Oui.
Vous êtes professeur responsable de l'enseignement sur les acouphènes au programme d'audiologie de l'Université de Montréal et là pour nous aider à mieux comprendre ce que sont les acouphènes parce que, et je le disais tantôt en introduction, c'est difficile à saisir parce que différent pour chaque personne. Des fois, le bruit est permanent, des fois par intermittence, des fois c'est fort, des fois c'est plus faible. C'est quoi une acouphène?
Un acouphène, techniquement, c'est un son qui est perçu par une personne, soit dans les oreilles ou dans sa tête, en l'absence d'un son autour. Souvent, la personne qui commence à avoir des acouphènes va penser « Ah, ça doit être soit une telle machine qui est ouverte ou telle chose qui produit un son », jusqu'à un moment donné que la personne s'aperçoit qu'elle est dans le silence complet et tout d'un coup, elle aperçoit ce son-là.
Quelles sont les causes?
Les causes, c'est un des gros problèmes avec les acouphènes, c'est que les causes peuvent être multiples. On dit souvent qu'un acouphène, c'est pas une maladie, c'est plus un symptôme. Mm-hmm. Ça peut aller, bon, du problème d'audition à aller avoir des problèmes métaboliques comme du diabète ou à faire de l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup de causes possibles qui peuvent causer des acouphènes.
Et l'acouphène, si je vous entends bien, oui, elle provient de l'oreille, mais elle viendrait du cerveau également?
Oui, techniquement, c'est qu'il y a de plus en plus les études démontrent que, bon, le dommage va se faire principalement au niveau de l'oreille, mais c'est au niveau du cerveau qui se ferait comme une genre de modification qui ferait en sorte que la personne va percevoir l'acouphène.
Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, 10 à 15 % de la population. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque?
Bien, c'est sûr que les personnes qui sont plus à risque, c'est les personnes qui travaillent dans le bruit ou des personnes qui sont exposées à des bruits dans leurs loisirs, comme le port continuel de MP3, ou aller souvent ou aller à des spectacles puis être très près des haut-parleurs. C'est sûr que le risque d'avoir un traumatisme auditif qui, par la suite, peut engendrer des acouphènes.
Est-ce que ça se guérit?
Ça se guérit. C'est sûr, si on peut trouver la cause médicale et aller traitable. Comme je vous disais, il peut y avoir des causes multiples d'acouphènes. Quelqu'un peut avoir seulement un bouchon de cire dans l'oreille puis rapporter un acouphène. On enlève le bouchon puis l'acouphène disparaît. Ça, c'est des cas médicaux traitables. Mais la grande majorité, ce qu'on fait avec les clients ou les patients, c'est de les aider à mieux gérer le fait qu'ils ont un acouphène.
Oui, parce qu'il y a un impact au quotidien.
Ah, c'est sûr qu'il peut avoir beaucoup d'impact. Les trois impacts principaux sont souvent des problèmes de sommeil, parce que la personne, souvent, pas du monde, quand on se couche dans notre chambre, c'est très silencieux. Donc, c'est sûr que l'acouphène prend la place, comme on dit. Il y a les difficultés de concentration, puis il y a les difficultés d'attention, de pouvoir ou de relaxation, de problèmes à relaxer.
Et j'imagine que pour certaines personnes, ça peut générer de l'anxiété.
Oui, c'est sûr que certaines personnes, ça peut en générer beaucoup d'anxiété. Ça peut même amener jusqu'à des signes au niveau dépressif, des choses, parce que la personne a vraiment de la difficulté à gérer les émotions qui sont causées par l'acouphène.
Mais c'est pas douloureux en soi, les acouphènes?
Non, il n'y a aucune douleur. Les personnes ne vont pas rapporter douleur. C'est juste, comme je vous dis, c'est vraiment un son que la personne perçoit. Puis c'est un des gros facteurs aussi, c'est ce que la personne, l'acouphène représente.
Mm-hmm,
comme je dis souvent à mes étudiants, vous avez un robinet qui coule. La goutte qui découle, qui tombe, c'est vraiment pas fort, sauf ça peut garder une maison complète réveillée. C'est
tout
vraiment plus la connotation que la personne va mettre à son acouphène.
Docteur, vous n'êtes pas docteur, mais vous êtes professeur. Ronald Choquette, responsable de l'enseignement sur les acouphènes au programme d'audiologie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Et bien sûr, on consulte un audiologiste là, si jamais on veut en savoir davantage sur les acouphènes.
Puis aussi, ils peuvent consulter le regroupement Acouphènes Québec qui offre du support et d'informations aux personnes avec acouphènes.
Merci, M. Choquette. Merci, Rémi Hermoso, à la mise en onde. On se donne rendez-vous lundi. Portez-vous bien. Bye-bye.